L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième volet de la série consacrée à la découverte du Vietnam. La semaine dernière, nous nous sommes quittés au terme de la soirée d'arrivée à Hanoï après un long voyage en avion. Cette première promenade a permis d'avoir un aperçu de la vie nocturne et festive de Hanoï. Une bonne nuit de sommeil et nous voilà fin prêts pour attaquer la découverte de la région du Tonkin et de ses rizières. Au cours des différentes randonnées, nous aurons l'occasion de découvrir l'ethnie Hmong et sa culture. Dans les rizières du Tonkin, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Bye bye Hanoï. En ce lundi matin, après un solide petit déjeuner, nous faisons la connaissance des 12 personnes avec lesquelles nous allons partir marcher dans les rizières du Tonkin et naviguer sur la baie d'An Long pendant une semaine. Nous montons dans le minibus qui nous trimballera tout au long du périple et nous traversons la ville de Hanoï. A l'instar de la veille au soir, le nombre de mobilettes en circulation est impressionnant. Notre guide nous apprend que la ville de Hanoï compte 7,5 millions d'habitants et plus de 3 millions de mobilettes. Il n'est pas rare, nous explique-t-il, qu'il y ait 3 à 4 mobilettes par famille. En voyant le flot ininterrompu de mobilettes qui se déverse dans les artères de Hanoï, il est légitime de penser que le jour où les deux roues seront remplacées par des voitures, les embouteillages risquent d'être monstrueux. Hanoï est la seconde ville la plus peuplée du Vietnam, après Ho Chi Minh Ville. Hanoï est fondée par le roi Li Tai To en 1010. Elle demeure le point névralgique du Vietnam sur le plan politique jusqu'en 1802, date à laquelle Hue devient la capitale impériale sous la dynastie Nguyen. Entre 1902 et 1954, Hanoï est la capitale de l'Indochine française. À partir de 1976, elle devient la capitale de la République socialiste du Vietnam. Le pays a connu un véritable boom démographique et un fort développement économique, le classant comme un pays émergent. Hanoï a suivi cette dynamique, comme l'illustre la centaine de gratte-ciel présents sur son territoire. Au cours de notre traversée de Hanoï, nous découvrons le quartier des ambassades, où sont situées de nombreuses bâtisses de style colonial, héritage architectural de l'époque indochinoise. Nous roulons plus d'une heure et demie avant de quitter Hanoï, ce qui prouve l'étendue de la ville. Notre trajet vers le nord nous amène à traverser la région du thé. Nous nous arrêtons d'ailleurs dans une plantation où nous apprenons à cueillir des feuilles de thé. Notre guide, Lim, nous apprend à identifier les feuilles prêtes à être cueillies et comment les détacher sans les endommager. Cette cueillette, pour remplir un petit panier, est toute simple, mais il est facile d'imaginer combien cette tâche doit être éreintante lorsqu'elle est effectuée à longueur de journée. Au loin, nous apercevons deux silhouettes courbées portant un chapeau traditionnel à forme conique. Ce sont deux femmes qui pratiquent la cueillette manuelle. À côté d'elles, une équipe d'hommes pratique la cueillette, mais à l'aide d'une machine qui leur permet d'aller beaucoup plus vite. Nous aurons l'occasion de constater, à plus d'une reprise, que l'égalité homme-femme est loin d'être une problématique prioritaire au Vietnam. Après la cueillette, nous assistons au processus de séchage des feuilles. Le séchage se fait dans de grands fours rudimentaires où les feuilles sont placées dans des tambours qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, puis en sens inverse. Une fois la première phase de séchage effectuée, les feuilles sont tassées puis remises dans le four. Après leur second passage, les feuilles sont passées au tamis. Les meilleures d'entre elles sont utilisées pour être vendues en vrac, tandis que le rebut est revendu à une célèbre marque de thé dont les sachets sont jaunes et dont le nom commence par Lip et se termine par On. À la découverte de la culture Hmong. Le lendemain matin, nous partons de la ville de Thule, connue pour sa culture du riz gluant. Cette première randonnée du séjour est l'occasion de découvrir les rizières et leur culture. La culture de riz se fait en terrasse, des sortes de gradins qui sont le fruit du travail des hommes et des buffles, qui font office de tondeuse à gazon. Cette culture en terrasse présente différents avantages. elle donne la possibilité d'augmenter la surface des terres labourables, tout en retenant l'eau, car le riz est une plante très exigeante en eau. Les terrasses s'adaptent bien aux pentes, car elles permettent de lutter contre l'érosion des sols et de les enrichir en matière organique. Le lendemain, nous prenons la direction de la région de l'Aipaito, qui fait la fierté de l'ethnie Hmong. L'ethnie Hmong est l'une des plus nombreuses du Vietnam, avec près de 800 000 personnes. Les Hmong sont apparus il y a près de 300 ans. Au Vietnam, on les trouve dans le nord et dans le centre du pays. Auparavant, les Hmong étaient appelés Meo ou Mieux, qui désignent les populations vivant de champs et de vergers. Les Hmong sont des experts des cultures en haute montagne, cultures sur brûlis et riziculture inondée. Dans la culture Hmong, le régime patriarcal est de mise. L'homme occupe une place prépondérante dans la famille. Les parents partagent une maison avec le fils cadet, qui prend en charge le culte des ancêtres de la famille. Les Hmong fabriquent leurs propres vêtements, en utilisant notamment la teinture indigo. Lors d'une rencontre avec une famille Hmong, nous verrons les doigts des femmes en train de travailler les tissus, recouverts d'une teinte violacée. Au cours de cette rencontre dans un village isolé, nous serons frappés par le décalage entre la perpétuation des traditions de la culture Hmong et l'incursion de la modernité. La maison est très simple, avec une grande pièce principale où se trouve un brasero à l'entrée. Dans les recoins se trouvent des espaces servant de chambre à coucher. L'intérieur est très sombre. Sur un banc en bois, une petite fille s'amuse. Elle tient dans ses mains un téléphone sur lequel elle regarde un dessin animé. Nos pérégrinations montagneuses nous emmènent jusqu'au col Tran Ton, qui est le plus haut du pays. Nous apercevons le mont Fangsipan, le toit du pays, qui culmine à 3143 mètres. Sapa, de l'enchantement des rizières à l'horreur touristique. Après avoir salué le mont Fangsipan, nous prenons la direction de Sapa, une célèbre station touristique. Le premier contact avec Sapa laisse une impression mitigée. Nous tombons sur une ville où les hôtels ont poussé comme des champignons. Ce ne sont pas des grandes pensions de famille, mais de grands hôtels tape à l'œil. Certains d'entre eux ressembleraient presque à des palaces dignes de Las Vegas. Le tout donne une impression de carton-pâte, manquant singulièrement d'authenticité. Un contraste violent avec les paysages enchanteurs des jours précédents. Ce soir-là, le confort de la chambre d'hôte nous fera oublier cette déception. Le lendemain, nous prenons le départ de la dernière randonnée du séjour. Le ciel est couvert et nous serons entourés par la brume tout au long de cette marche. Une brume épaisse et une humidité omniprésente qui correspond à l'image que je me faisais de la jungle asiatique. Nous n'étions certes pas dans la jungle à proprement parler, mais cela suffisait à faire marcher l'imagination. Tout au long de cette randonnée, nous serons accompagnés par des femmes Hmong qui nous feront découvrir leur village et l'artisanat local. Nous repartirons toutes et tous avec de petits objets confectionnés par leurs soins. Ce sont des assemblages de tiges de plantes en forme de cœur ou de cheval. Un joli souvenir à ramener à la maison. Au milieu de la brume, les rizières se dessinent petit à petit. Cela nous change, car nous avions l'habitude de les voir sous un beau soleil. Ainsi s'achève cette seconde chronique dédiée à la découverte du Vietnam. La semaine prochaine, nous partirons de la gare de Lao Cai pour un trajet en train de nuit en direction de Hanoï. Je vous raconterai l'arrivée en gare de Hanoï à 4h30 du matin et la visite du marché aux fleurs avec les yeux moyennement en face des trous. Nous voguerons ensuite sur la baie d'Along, dans les paysages qui ont servi de décor au film Césarisé et Oscarisé, Indochine. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.